Très bien. Si on peut projeter aussi, s'il vous plaît. La semaine dernière, on a vu deux choses qu'Abraham a décidé d'honorer Dieu dans un temps de crise, quand il s'est séparé de son neveu Lot, et puis il a aussi choisi d'honorer Dieu dans un temps de joie, quand il a vaincu des envahisseurs, qu'il a repris des richesses volées, il a aussi décidé de honorer Dieu là. Mais dans ces deux épisodes, avec un regard terrestre, humain, il a été perdant quand même. Parce que dans l'épisode de sa rentrée de bataille, dans un regard humain, il a été perdant parce que pour honorer Dieu, il a choisi de ne rien garder du butin. Il a tout repartagé. Et dans l'épisode avec son neveu, il a été perdant parce que, un, il n'a pas pris la meilleure terre, et deux, il prend quand même des distances d'une relation proche. C'est quand même perdre quelque chose. C'est comme une fois quelqu'un que j'ai accompagné, qui avait grandi dans un contexte familial assez toxique, je vais l'appeler Sébastien. À l'âge adulte, il a senti qu'il devait prendre des distances par rapport à sa famille d'origine. Parce que même en ayant sa propre vie, chaque fois qu'ils se rencontraient, il y avait cette ambiance bizarre d'accusation, de culpabilité, de manipulation qui revenait. Et j'étais pleinement d'accord avec lui qu'il fallait mettre une limite si on ne peut pas avoir une relation saine. Tant que la personne ne change pas, il faut prendre ses distances parfois. Et il a pris une distance tout à fait correcte, mais de temps en temps, il y avait aussi un petit sentiment de tristesse. Ça aurait pu être différent, mais malheureusement, c'est comme ça maintenant. Le sentiment de tristesse était quand même là. Et cette semaine, quelqu'un m'a dit une phrase très intéressante dans un contexte similaire. Une personne m'a dit: je me sens parfois triste pour ce qui aurait dû être, mais qui ne l'a pas été et qui ne sera jamais. Je dis, waouh, je vais presque tenter cette phrase, c'est tellement joli, est-ce que tu peux répéter? Mais il parlait sincèrement, il a dit, je me sens parfois triste pour ce qui aurait dû être, mais qui ne l'a pas été et qui ne sera jamais. Du coup, une tristesse de ce genre-là, c'est peut-être similaire pour Abraham, même si... tant dans l'épisode de la victoire comme dans la séparation avec Lot, il a pris la bonne décision. C'était la bonne décision. Le fait de perdre au niveau terrestre, ça a dû lui faire quelque chose. Je pense qu'Abraham pensait un peu comme ça. Oui, je sais que j'ai pris la bonne décision. Je sais que Dieu a promis de me bénir. Mais en même temps, je me sens découragé. Et je dis ça à cause de la suite. Parce que juste après ces deux épisodes, la semaine dernière, on lit ça en Genèse 15, après ces événements, c'est la prochaine diapo, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il y a Dieu qui lui dit: Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu lui parle pour le rassurer, il dit: Je suis vraiment avec toi, je suis ton défenseur. Ton bouclier, ça veut dire ça. Je suis ton défenseur. Et Dieu lui dit: ta récompense sera grande. Donc Dieu est en train de le réconforter à cause de ses pertes terrestres. Et on peut voir la démotivation d'Abraham par la question qu'il va poser ensuite. Regarde comme cette question montre que son âme était triste, et même très triste. Abraham répondit. La prochaine. Voilà. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. On arrive à sentir la tristesse d'Abraham dans cette question. Oui, j'ai suffisamment de biens matériels parce qu'il était riche, mais à quoi bon? Oui, c'était bien d'avoir reçu la bénédiction du prêtre Melchizedek. C'est bien beau d'avoir mangé du pain et du vin dans ta présence, mais ça veut dire quoi ta bénédiction en fait? Concrètement pour aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que me donneras-tu? Il demande à Dieu. Mais que me donneras-tu? Et Abraham continue à dire, il dit: tu m'as pas donné de descendance. C'est la suite. et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Et Dieu fait quelque chose de très pédagogique qui après sera utilisé dans toute la Bible. Merci. Dieu donne une image. Quand je parle à mes enfants, ça marche toujours mieux quand on donne une image. Par exemple, je peux dire « telle célébrité a beaucoup d'argent ». Ok, il est milliardaire. Toujours pas, ils n'ont pas vraiment réussi à saisir. Mais si je dis, il a acheté 3 navires de croisière et le restaurant de la Tour Eiffel, alors là, ils comprennent. Là, ah, d'accord. Ça veut dire ça, être très riche. Ils arrivent à visualiser. Ils peuvent mieux comprendre. Et Jésus faisait ça quand il parlait. Il donnait des images pour montrer la réalité de qui est Dieu parce que c'est trop difficile à saisir qui est Dieu. Du coup, Jésus parlait en images. Il donnait des images, puis ah, là je comprends. Avec cette image, j'arrive à comprendre qui est Dieu. Et Dieu fait la même chose. C'est comme s'il prenait Abraham par la main. Il le sort de sa tente pour qu'il puisse comprendre quelle sera sa récompense. Et il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. Voilà, très pédagogique. Il regarde ce ciel étoilé, sans aucune lumière de ville pour empêcher la lumière des étoiles de briller. Maintenant, c'est tangible. Il peut comprendre quelle sera sa récompense, une descendance énorme. Et maintenant, quelle a été sa réaction au milieu de sa tristesse? Il dit, le texte dit, « Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Et encore une fois, voilà pourquoi il a été appelé ami de Dieu. Dieu lui explique ce qu'il va faire et Abraham fait confiance. Il dit dans son cœur, « Je le crois. » Et voilà la grande différence entre la confiance que la Bible enseigne et la pensée positive enseignée par quelques livres de coaching moderne. La pensée positive enseignée par certains livres de coach et même dans des histoires pour des enfants, c'est ça. Crois dans tes rêves, poursuis-les, aie confiance en toi, tu peux le faire, tu es capable, si tu le crois vraiment, tu y arriveras. C'est ça le message. Et la confiance qui a fait d'Abraham un homme juste aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec ça. Avec cette pensée positive. On va voir ce qui s'est passé vraiment dans le cœur d'Abraham et Romains 4 essaie de décrire qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham là à ce moment. Il explique en détail le processus de confiance en Dieu chez Abraham. Et Romains 4 dit « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce que lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » La confiance que la Bible enseigne ne commence déjà pas avec moi. Ce n'est pas mes rêves ou mes capacités ou mon auto-estime. Ça commence avec ce que Dieu dit, ce que lui, il a dit. Dieu dit à Abraham, « Telle sera ta descendance. » Il lui donne une parole et ça commence de là la foi. Je me base sur une parole que Dieu m'a donnée, je fais confiance à cette parole. Et là, j'avance. En novembre, ça fera 7 ans qu'on est en Suisse. Et le premier message, c'est que Larissa a déjà partagé un petit peu des défis qu'on avait eus. Quand on a reçu l'appel pour venir être officier ici, c'était en janvier 2019. Et du coup, on a commencé toutes les préparations. On a trouvé un billet pour le mois de novembre. Qu'on avait ce temps-là pour tout vendre, se préparer et venir en Suisse. On a pu prendre un peu l'équivalent brésilien du deuxième pilier, quelque chose de ce genre-là. On a mis de côté tout cet argent. Et au Brésil, avec tout ce qu'on avait réussi à économiser dans tous ces mois, de janvier jusqu'à novembre, ça nous permettrait de vivre au Brésil à peu près 6 mois sans travailler. En Suisse, ça me permettait de vivre 3 mois. Et ce que je disais dans mes prières, aujourd'hui ça serait moi, le taux de change il est beaucoup pire maintenant. Ce que je disais dans mes prières au Brésil déjà, c'est « Seigneur, je veux dépendre de personne. Ça serait vraiment triste pour moi de devoir dépendre de qui que ce soit. » Et avant d'arriver, j'avais déjà commencé à envoyer des mails avec mon CV. Très peu de réponses par mail. Du coup, une fois sur place, j'ai commencé à envoyer beaucoup de CV par la poste. Aussi très peu de réponses, quelques-unes négatives, mais d'autres ne répondaient même pas. On passe 3 semaines chez mon frère et ensuite on prend un appartement, mais toujours sans emploi. On continue à prier et je vais au bureau de chômage parce que mon frère et ma sœur, quand ils sont venus habiter en Suisse, même s'ils n'avaient jamais travaillé en Suisse, ils ont eu droit au chômage comme Suisse en étant Suisse. Et avant que j'arrive, la loi avait juste changé que si quelqu'un n'avait jamais travaillé en Suisse, même en étant Suisse, il n'avait pas droit au chômage. Du coup, c'était un an du chômage. On entre en décembre. Du coup, novembre c'était passé. Décembre, on était en train d'utiliser l'argent. J'avais encore le mois de janvier. J'appelle au CIP à Trablant. On habitait à Trablant. J'appelle au CIP pour des cours de français pour Clarissa. Et puis, pour savoir un peu les prix, les jours pour l'inscrire. Puis, à la fin de l'appel, je dis, par hasard, vous n'avez pas une place pour... un enseignant aussi de français, par exemple, pour des étrangers. Et puis, elle dit, ah oui, on cherche quelqu'un, mais viens pour un entretien, et puis on verra. Et je vais à cet entretien, et puis elle dit, ben, on te donnera des nouvelles, et puis encore rien du tout. Et il y avait un lundi, on avait le matin un entretien à l'Armée du Salut. On savait déjà que le stage commencerait qu'en août. Du coup, je devrais travailler 6 mois jusqu'à commencer à Lausanne au mois d'août. Et on était encore dans le processus pour être vraiment accepté. Il y avait un entretien à l'Armée du Salut à Berne le lundi matin. Et ce matin-là, j'ai prié, Seigneur, je dois faire quoi maintenant? J'ai déjà envoyé tout plein de CV tout partout. J'ai passé un entretien, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que je fais? Et puis, ce matin même, il y a eu ce verset qui est sorti dans la lecture que je faisais des psaumes. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Dieu, le Seigneur, en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. J'ai dit, ok, d'accord, alors... j'arrête de chercher peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour dire Dieu prend soin de toi, je donne ton soutien pendant que tu dors, il y a des choses qui bougent pendant que tu dors. Et puis on a cet entretien à l'Armée du Salut à Berne, Clarissa et moi. Pendant cet entretien, je reçois 2 appels, du coup je ne les prends pas. Et puis quand on sort à midi, je vois que c'était le CIP justement à Tremblant. Et je rappelle, ils ont dit, est-ce que tu peux passer aujourd'hui? On a une proposition officielle à te faire pour signer un contrat. Puis j'y vais directement là-bas, et puis dans l'entretien, c'est la prochaine image, ils m'offrent un contrat à durée déterminée de janvier à juin. Exactement ce qu'il me fallait, à 70%. À 70%, c'était combien il nous fallait pour pouvoir vivre en Suisse. Et exactement quand il fallait, le temps qu'il fallait, le salaire qu'il me fallait. Et puis juste après cet entretien, je vais à la forêt pour remercier Dieu. C'est exactement le bon timing. En plus, travailler à Tremblant, je pouvais aller à vélo très proche. C'était mieux que les autres choses que j'avais postulées. Voilà, que tous les autres CV que j'avais envoyés à plusieurs endroits différents. Et puis, ce qui me touche, c'est qu'on n'était ni angoissé, ni stressé, ni préoccupé vraiment dans une situation qu'on pourrait l'être. Clarissa non plus. C'était plutôt Dieu, il a déjà guidé jusqu'ici, il va continuer à guider et il a été fidèle encore une fois. Et ce genre de choses, j'ai une boîte où je garde les choses qui m'ont vraiment marqué dans mon chemin de foi. Et le contrat, je l'ai gardé aussi dans cette boîte pour dire ça, c'était vraiment flagrant. Je considère absolument pas que c'est juste une coïncidence. Absolument. Comme tout allait correctement, comme des pièces de puzzle qui se mettent en place. Mais la confiance en Dieu vient d'une parole qu'il a donnée. Ce n'est pas une confiance en soi. Ce n'est pas « je suis tellement capable que je vais réussir parce que je suis une personne extraordinaire ». C'est plutôt lui qui commence, lui il donne une parole et on le croit. Et c'est ça qui passe dans la tête d'Abraham. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et ainsi, il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et on découvre ce que Dieu dit de plusieurs manières. En passant du temps seul avec lui pour prier, pour lire la Bible. En venant l'adorer dans un culte, en écoutant un message en ligne. Quand on écoute des chants de louange, parfois par une pensée qui vient. Mais Dieu parle réellement. Et quand il parle là, on peut faire confiance. Et quand c'est lui, on sait que ce n'est pas juste une pensée, parce qu'on a une conviction profonde et parce que c'est confirmé dans la Bible. Ce qu'on reçoit doit être confirmé dans la Bible pour qu'on puisse être sûr que c'est Dieu. Et peut-être toi ou quelqu'un proche de toi peut se dire... C'est de la folie de baser des décisions de vie sur une parole ressentie dans notre tête ou lue dans un livre qui a été fini d'écrire il y a 2000 ans. Mais prends en compte ça alors. Beaucoup plus tard, dans la descendance d'Abraham, Dieu envoie Jésus qui est décrit dans la Bible comme la parole de Dieu en forme humaine. Et je défie les gens à analyser sa vie dans le texte. Je suggère souvent le livre de Luc si les gens ont l'habitude de lire. Si les gens n'ont pas l'habitude de lire, je suggère de commencer par Marc. Mais analyse le livre de Luc d'une manière scientifique. Comme il a vécu, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a répondu quand il a été questionné, les miracles qu'il a fait. En lisant, considère honnêtement si ça semble juste une histoire inventée, comment c'est la chanson, la souris qui devient une grenouille. Mes enfants chantent ça. La souris verte, voilà. Si c'est juste une histoire inventée comme la souris verte, ou si c'est juste une histoire inventée, alors on peut lire juste pour le plaisir et puis on peut passer à autre chose. Mais si ça s'est vraiment passé, si quand on analyse comme c'est écrit, ça semble que c'est vrai, pour de vrai, alors là, il peut avoir vraiment une grosse différence dans notre vie, si c'est vrai. De la même manière qu'Abraham a basé sa foi sur une parole de Dieu, c'est en faisant pas confiance à ce que Jésus a dit, à ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, qu'on base toute notre confiance aujourd'hui en Dieu. C'est basé sur cette parole-là de Jésus. Et je continue le raisonnement d'Abraham, espérant qu'en toute espérance, Abraham a cru et ainsi est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce que lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et le processus d'Abraham ne s'est pas arrêté là. Il considéra son corps, qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas une foi aveugle qui oublie la réalité de la terre. Il a considéré les faits. Humainement, ce n'est pas possible. Ça fait déjà des années qu'on essaye. Sarah et moi, on est âgés. Donc, si une fois quelqu'un te dit, la foi, pour avoir la foi, il ne faut pas analyser, il faut juste croire. Je pense que ce n'est pas une très bonne manière de croire, parce que ce n'est pas l'exemple d'Abraham. Abraham regarde, il voit l'impossibilité de la situation, mais même comme ça, il fait confiance à la parole que Dieu avait dite, telle les étoiles, ce sera ta descendance. Comment Dieu allait faire? Il ne savait pas. Mais à un moment donné, il décide de croire. Si Dieu dit, ça sera fait. Et quand la question est sur Jésus, je dis souvent, on a le droit de regarder tout ce que humainement, ça semble illogique ou confus dans le texte. D'ailleurs, les quatre auteurs racontent l'histoire d'une manière un peu différente. Et il y a des passages qui ne sont pas exactement égales dans les quatre évangiles. C'est tout à fait OK de discuter ces différences. On a le droit de le faire et c'est même bien de le faire. On peut analyser, il y a des réponses pour beaucoup de ces questions, et c'est une très bonne manière de croire en questionnant aussi. Mais de toute façon, il y aura un moment où il n'y aura pas de réponse pour tout, pour toutes les questions. Et là, c'est à nous de faire comme Abraham, qui a regardé ses limitations et qui a quand même cru. Il y aura un moment où on va devoir décider, je crois, même s'il y a certains points qui m'échappent. Même s'il y a certains points qui m'échappent. Et Romain continue, devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Et c'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Et la conclusion en Romains, c'est Abraham est notre père. La suite. Notre père pour dire qu'il est notre modèle, notre exemple, devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Et j'aime bien cette conclusion de Romains pour la vie d'Abraham. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Et ça nous fait réfléchir, quelle est la situation de ta vie qui est morte en ce moment ? Qui n'a pas de vie, qui n'a plus d'espoir du tout. Dieu peut redonner la vie dans cette situation. Et s'il y a quelque chose qui n'existe pas encore dans une situation, par exemple, si la confiance en Dieu n'existe pas dans ta vie, ou dans la vie de tes parents, ou dans la vie de tes enfants, Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans les cœurs. Et tu peux être sûr, cette confiance en Dieu peut nous remplir de force pour faire face à la situation. Cette confiance en Dieu peut rendre gloire à Dieu parce qu'on va vivre un style de vie qui témoigne. Le Dieu qui promet est assez puissant pour le faire. Et donc je peux promener ma vie dans cette vie dans une joyeuse insouciance. Le Dieu qui promet est assez puissant pour le faire, je peux avancer insouciant. Parce que je lui fais confiance. La semaine prochaine, il y a Antonin qui va terminer cette série avec la naissance d'Ismaël, pas du fils de la promesse, mais d'Ismaël. Et on va terminer ici, avec un point de suspense, la semaine prochaine, sans la promesse qui s'accomplit, et on va continuer cette série seulement l'année prochaine, en automne. Mais du message d'aujourd'hui, j'aimerais juste laisser ça à la place du « Fais confiance à toi et suis tes rêves ». La Bible invite à quelque chose de beaucoup plus radical. Elle dit « Fais confiance à moi et suis mes rêves ». C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour cet exemple d'Abraham et qu'on a tellement à apprendre, Seigneur. Tu es un Dieu réel qui parle réellement et quand tu parles, on peut te faire confiance, Seigneur. Ce que tu dis va s'accomplir. Seigneur, c'est tellement merveilleux quand on peut marcher en paix parce que tu as dit quelque chose et on peut être libéré des préoccupations. Ou de la peur. On a envie de goûter ça dans nos défis quotidiens, dans les situations stressantes ou accablantes ou tristes qu'on peut vivre, Seigneur. Ou des fois, quand on veut quelque chose et on ne réussit pas, on aimerait une parole de toi sur notre vie pour qu'on puisse s'appuyer à ça et que ça puisse donner la force face à cette situation et que ça puisse te donner gloire parce que le Dieu qui promet est fidèle pour l'accomplir. Mais ça commence toujours par toi et on a besoin de toi, de tes paroles. De notre côté, on prend le temps de s'arrêter et d'écouter, de se mettre à l'écoute de toi, d'être attentif au fil de la semaine pour ce que toi tu veux dire. Et quand tu auras quelque chose pour nous, on va le saisir, Seigneur, et on va le garder. Et on va te faire confiance comme Abraham.